Et vous écoutez France Culture. Une petite ville grise, grise comme la poudre à canon. Charles Beaumont, et pas d'erreur, c'est le régent. Mauvais genre en pleine fièvre patrimoniale ce soir, puisque nous évoquerons la trilogie du Hotu d'Albert Simonin, ressortie aux éditions La Manufacture de Livres, un intrus chef-d'œuvre de Charles Beaumont de 1959 sur les tensions raciales américaines, ou comment les attiser quand on est un petit jeune homme blond, mince et très pervers, une réédition Belfond et finale en beauté avec Mark Dixon Détective d'Otto Preminger, édité en DVD et Blu-ray Collector chez Whiteside. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, bienvenue dans le Cercle Noir, cinquième du nom de l'émission Mauvais Genre, qui ce soir eh bien, se consacrera au cinéma et à la littérature. Il faut savoir, comme on dit, faire évoluer la formule. Je serai entouré ce soir, bien évidemment, d'Élise Lépine.
Bonsoir.
Comment va-t-elle ?
Très bien.
Elle va bien. Comment était le Quai du Polar 2018 ?
Quai du Polar était un très bon cru cette année.
C'est-à-dire détaillé, long en bouche.
Il y avait bons auteurs, long en bouche, bonne ambiance, de bonnes fêtes et de belles rencontres. Donc c'était un bon cru.
Quelle nouvelle tête avez-vous croisée parmi les auteurs étrangers, par exemple ?
Parmi les auteurs étrangers, qu'est-ce qu'on a eu ? Vous me prenez au dépourvu, parce que moi j'avais plutôt des Français.
Eh oui,
des Français, alors, à défaut de gris.
Vous avez toute l'émission pour réfléchir, voilà, donc je vous reposerai la même question dans une heure, et là j'attends une réponse.
Circonstanciée.
Hubert Prolongeau revient de Chine.
Oui, tout à fait. La Chine, puisque c'était Hong Kong,
mais la Chine.
Mais c'était pas loin.
Et alors ?
Quels auteurs étrangers ?
Quels auteurs hongkongais avez-vous traduit ?
Mais nous piège, ce soir.
Je ne saurais. Non, j'y étais pour aller découvrir le Hong Kong naturel, car au-delà de la ville tentaculaire et qui s'élève de plus en plus qu'on connaît, il y a des montagnes, il y a des réserves d'oiseaux, il y a des plages, il y a donc tout un Hong Kong méconnu et très ouvert, et tout un combat qui se fait entre le gouvernement qui essaie de récupérer des terres et ces terres-là dévouées à la nature qui sont occupées souvent de façon illégitime par des Hongkongais bucoliques.
Par des zadistes hongkongais.
Voilà.
Élise Lépine, brusquement,
voilà,
se souvient.
J'ai repris mes esprits. Donc avec Gabriel Talent, bien sûr, chez Gallmeister, qui est la nouvelle sensation du roman noir et du polar thriller. Enfin, c'est un livre très complexe, My Absolute Darling, qui est à lire. Hein, je le dis pour nos auditeurs, vraiment
c'est
la
vrai,
sortie du
pas
moment.
Assez parlé, même pas parlé du tout.
On n'a pas parlé du tout.
Mais qu'à cela ne tienne, nous l'avons l'auteur.
Le cœur y était.
À l'œil, Monsieur Rouillet, comment va Monsieur Rouillet ?
Eh ben moi je vais bien. Moi j'étais non pas à Quai du Polar, mais j'étais chez la manifestation
né
concurrente,
à Hong Kong.
Beaune, le festival du polar de Beaune, où j'ai vu des auteurs étrangers, enfin plutôt j'ai vu leurs films moi, on les a primés, donc deux films, c'est des auteurs de films, des réalisateurs, le Grand Prix, c'est un Chinois, qui n'est pas de Hong Kong, Don Young, c'est un premier long métrage, donc Don Young c'est le nom du réalisateur, ça s'appelle The Looming Storm, c'est un titre bien chinois, mais c'est sous ce titre-là anglais qu'il sortira en France le 25 juillet. Voilà, The Looming Storm, c'est ça joue entre deux temporalités, 1997, qui est l'année de la rétrocession de Hong Kong, et voilà, et le temps présent c'est 2007, mais toute l'histoire se passe en 97 dans cette Chine très capitaliste où le héros est un contremaître dans une usine et il se rêve comme adjoint de policier pour démasquer un serial killer. Et ça se passe vraiment très mal. Et si vous voulez, il y a la décadence industrielle du pays, ambiance boueuse, écranscope, avec le côté polar. Et puis la critique, nous on a promu un film danois qui s'appelle Guilty, qui est aussi un premier
coupable
film
en anglais
de Gustav Møller, et qui va sortir aussi au mois de juillet, et qui réalise le rêve d'Hitchcock de faire tout un film dans une cabine téléphonique. Alors, c'est pas tout à fait une cabine téléphonique, c'est un central téléphonique de police. Et on va être avec un policier au téléphone pendant une heure et demie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en jouant sur le son et sur le hors-champ, le film existe. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui pourrait être un exercice de style pour avoir vraiment un univers qui se crée devant nous. C'est vraiment, à mon avis, les deux découvertes de ce cru, parce que chaque année, à Beaune, bah, il y a des films. L'année dernière, c'était Le Caire confidentiel, Colère d'un homme patient, et Kedios Sperdones. C'était trois polars passionnants. J'annonce pour cet été, ces deux-là.
Très bien, merci Philippe. Hitchcock, on en parlera la semaine prochaine avec François Rivière qui signe un étonnant essai sur ce personnage singulier chez Rivage. Monsieur Fazulo, quel festival, auquel festival étiez-vous et où étiez-vous donc ?
Alors, le festival le plus récent de mémoire, j'étais aux Hallucinations Collectives à Lyon. Donc ça, c'était déjà il y a un petit moment. Festival de cinéma de genre, mais pas que, avec beaucoup de films de rétrospective, des copies restaurées, enfin des choses vraiment très très chouettes. Et cette année, il y avait pas mal d'avant-premières aussi, des films qui sont depuis sortis en salle. Mais en tout cas, c'est une excellente manifestation qui reprend en fait la suite de l'étrange Festival de Lyon, pour recontextualiser un peu le type de manifestation que c'est. Donc on se retrouve avec le même type de programmation, c'est-à-dire des films parfois transgenres, un peu étrange, des pépites oubliées, voilà, beaucoup de choses, et souvent d'ailleurs projetées en 35 mm, donc pour les cinéphiles, c'est vraiment une belle aubaine.
Merci Fausto, et bien maintenant, bien écoutez, ouvrons l'encyclopédie pratique des mauvais genres à la lettre S comme sorcière, ou comme Duchesnay, ou comme D, ou...
C'est la lettre V comme V.
Les V comme V.
V comme V, V, E, accent aigu, LIA, V.
Il y a beaucoup de manières d'être sorcière et je pense qu'on a toutes des manières différentes de le vivre. Mais à la base, je pense que c'est quand même ressentir une connexion avec l'histoire des sorcières, donc qui a été marquée par la chasse des sorcières, qui a ciblé spécifiquement les femmes. Être un petit peu... Dans une recherche de l'altérité et du droit à l'altérité, du droit de ne pas correspondre totalement à des normes sociales, par exemple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé comme ça par les mouvements queer. Dans le cadre de la sorcellerie plutôt traditionnelle, je crée des talismans et des objets qui sont voués à concentrer la volonté des personnes qui me les commandent. J'ai un rapport à la magie qui est vraiment autodidacte et un peu bricolé, on va dire. Je pratique vraiment cette éthique du do-it-yourself, autant dans la magie que dans l'édition et que dans les arts plastiques, et en faire sa propre magie. Il y a vraiment quelque chose de... Je suis athée et adogmatique. C'est comme ça que pratiquent beaucoup de gens la magie aujourd'hui. C'est une manière qui est dans l'air du temps de se faire vraiment sa petite spiritualité.
Il y a ces dessins découpés et assemblés sur napperon intitulés « Mauvaise fille va ». Cet ensemble d'installations, abjecte beauté, mêlant aquarelle aux teintes rosâtres et pâles, boules de cheveux et gants latex de ménage, un ex-voto appelé vulve ardente, des objets rituels comme ce bol de purification pour cracher son venin, ou ces superbes molaires à secret en céramique émaillée. L'IAV pratique son art comme un monstre hybride, dit-elle, en ne se cantonnant surtout pas dans une seule discipline, elle qui est tout aussi à son aise en l'artisanat, l'art que dans la sorcellerie. Car l'IAV, quoiqu'elle ne le crie pas sur tous les toits, qu'elle est sorcière, revendique une pratique sorcière. Nul étonnement alors à ce qu'elle ait proposé Clit Kong Zin, un fanzine d'art visuel façonné à la main et qui propose d'explorer le concept réducteur selon elle de féminité. Le numéro 1, le poil de la belle. Et pour le numéro 2, la sorcière comme figure puissante et subversive. Pour vous mettre dans le ton, petite description de sa couverture magnifiquement imprimée de manière artisanale en noir et rouge. Il y a deux mains disposées de telle façon qu'on ne sait pas trop si elles représentent un regard ou un sexe féminin, et juste au-dessus, une vulve triomphante qui projette des rayons telle une sainte vierge, plus charnelle, précise l'IAV. Le titre, sorcière, le sous-titre, puissante, subversive, marginalisée, et à l'intérieur, des textes, des dessins, des photos, des collages, des flyers autour de l'image de la sorcière. Thank you.
Alors, dans cette revue, j'ai sélectionné des images qui représentent la sorcière en dehors des clichés qu'on peut se faire. Du moins, j'ai essayé de sélectionner ce genre d'images-là. Donc, c'est pour contrer une espèce d'imagerie qu'on a depuis très longtemps de la sorcière, qui est une imagerie qui descend directement de l'imagerie qui a été fabriquée pour persécuter les femmes qu'on accusait de sorcellerie, et qui est une imagerie assez dualiste entre la vieille femme menaçante, qui veut du mal, qui est hideuse, qui fait peur, et la jeune femme séduisante qui va complètement envoûter les hommes pour se servir d'eux de manière complètement maléfique. Et c'est vrai que quand on parle de sorcière, les gens qui pratiquent pas de magie ou qui sont pas vraiment dans ces cercles-là, ils vont tout de suite imaginer souvent cette image surnaturelle d'un être fantastique qui n'a jamais vraiment existé. Et j'avais envie d'aller dans un autre imaginaire en fait que celui qui a été créé par les persécuteurs des sorcières, qui voit la sorcière comme une personne qui s'assume, une personne qui est affranchie, qui vit en dehors des normes qui sont imposées à la société, qui ose transgresser certaines choses. L'image qui me vient, c'est le contact avec les choses profanes, avec les choses qui peuvent être impures ou qui peuvent être jugées comme sales. Donc tout ce qui est en rapport au corps, toutes les excrétions, des choses les plus naturelles, le sang menstruel, tout ce genre de choses. Le rapport aussi à la mort et à la naissance, parce que beaucoup des personnes qui ont été persécutées pendant la chasse aux sorcières étaient quand même des sages-femmes ou avaient une certaine connaissance en obstétrique et en gynécologie.
Pour retrouver le travail de l'IAV, vous pouvez vous rendre sur son Tumblr, liav-art.tumblr.com. Et pour en savoir plus sur ce superbe fanzine, les informations sont sur son site ou alors sur le Facebook du fanzine, Clit Kong Zine. Et attention, il ne reste que plus beaucoup d'exemplaires manufacturés, mais on m'annonce que le collectif Sororare, dont l'IAV fait partie, est en train de le rééditer en offset. Alors amis ES et amis IS des marges de l'art et de la subversion, et surtout des chemins de traverse, précipitez-vous vers ce numéro sorcière.
Merci Céline pour cette entrée, l'IAV de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Alors puisqu'on parle de sorcières, reparlons de votre série éblouissante, écoutable, podcastable, commentable, enfin tout ce qu'on veut.
En ligne, sur le site Internet, de France Culture. Oui, sur le site de la série documentaire, puisque du lundi au jeudi de cette semaine à 17h, de 17h à 18h, la série documentaire a été consacrée à la figure de la sorcière. Donc c'est une série que j'ai réalisée avec notre cher Laurent Paul Ré.
Oh, alors
voilà, mais pas que.
D'une réalisation
mais pas
exceptionnelle.
Que. Mauvais genre veillait, puisque le premier épisode était consacré essentiellement à la chasse aux sorcières et pourquoi est-ce qu'à un moment de l'histoire on en est arrivé à brûler exclusivement des femmes, 80% quand même des personnes qui sont passées sur les bûchers. Le deuxième est plus consacré à la figure, je dirais, à la proto-sorcière, cette femme de la nuit qui vole, qui se transforme en animal. Et le troisième épisode, on a pu retrouver Fausto et Philippe, puisqu'ils sont venus nous parler de la figure de la sorcière au cinéma. Donc c'est un documentaire où on retrouve leur sorcière préférée, mais on retrouve aussi une danseuse sorcière, on retrouve Maléfique, qui faisait tellement peur au petit Philippe Rouillet.
Il n'est jamais tout à fait remis.
Oui, mais grâce à ça, il est là aujourd'hui, peut-être parce qu'il a tremblé dans son lit en s'imaginant que Maléfique allait le retrouver dans son lit, d'ailleurs, je crois. Et le quatrième épisode est consacré aux sorcières queer, puisque c'est quand même grâce à Mauvais Jean que j'ai rencontré beaucoup de jeune femme sorcière. Et voilà, donc grâce à ce quatrième épisode, on rencontrera la figure plus, je dirais, rebelle, politique et révolutionnaire des sorcières d'aujourd'hui. Donc beaucoup de sorcières pendant 4 heures.
Très bien, et puis autre actualité...
Et oui, tout se concentre sur peu de temps.
Duchénique.
Voilà, je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, de 20h à 20h30, dans l'émission À Voix Nue, nous avons rendez-vous du lundi au vendredi avec Richard Bohringer, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines. Réalisation de Laurent Polleret, Pourquoi changer les bonnes équipes qui marchent. Et voilà, donc vous pourrez retrouver Richard Bohringer. Sincèrement, ça a été une rencontre absolument magnifique. Et on parlera du cinéma, mais on parlera aussi de son écriture qui swing, on parlera de sa traversée de l'enfer avec son passé d'héroïnomane, et puis aussi son enfance, parce qu'on ne sait pas toujours que Richard Bohringer est né d'un père allemand et d'une mère française en 1942, chose pas tout à fait simple.
Merci Céline, donc à écouter ou à réécouter bien évidemment sur le site de France Culture. Et après les sorcières vaillantes, porte-flambeau du féminisme contemporain, maintenant place à Messieurs les Hommes. Scalpel, choix de Laurent Polleret en ouverture de cette émission Cercle Noir Polar dans le mauvais genre sur France Culture. Messieurs les hommes, eh bien on peut les retrouver dans une réédition fort bienvenue des éditions La Manufacture de Livres. Élise Lépine, il s'agit de la trilogie du Hotu. Le Hotu d'Albert Simonin. Alors Albert Simonin, rapidement, un gars de la chapelle, 20 métiers, 20 misères avant la guerre, journaliste à l'intransigeant, pendant la guerre, journaliste de la collaboration, ce qui lui vaut 5 années de prison à la libération, donc un passé chargé, comme beaucoup de figures, je dirais, de tout ce milieu du polar au cinéma et en littérature d'après-guerre, et puis démarrage en littérature, touchez pas au Grisby, et là, une grande carrière, marquée notamment par des adaptations au cinéma tout à fait exceptionnelles et puis légendaires, Les Tontons Flingueurs pour ne rien dire, touchez pas au Grisby et autres, et puis plusieurs des œuvres assez variées, et notamment deux trilogies polars, la première Max le Menteur, et la deuxième c'est Le Hotu. Alors Le Hotu, Kezako.
Voilà, alors Le Hotu s'affranchit et Hotu soit qui mal y pense, donc cette trilogie consacrée à ce caractère spécial qui est Le Hotu, qui est en fait Johnny, un jeune homme des beaux quartiers, il habite dans le 17e chez sa marraine qui pose sur lui un regard pour le moins concupissant, et il a pris sous son aile un jeune homme qui s'appelle Petit Paul, qui va devenir Polo au fil du livre, et qui lui vient du quartier de Clignancourt, donc qui est plus habitué aux rades pourries et aux chambres misérables. Alors tous les deux s'allient pour devenir bande organisée de voyous à deux, voilà, donc ils font des casses.
Un tandem héroïque.
Ils volent, ils détroussent alors des femmes que Johnny va séduire, ils braquent des bijouteries de manière plus ou moins réussie, puisque à l'occasion du braquage en bijouterie, Petit Paul va se prendre une balle dans le buffet et se faire soigner par Irène.
Je vois que vous causez...
Je parle, évidemment. Alors ça, il faut le mentionner quand même, c'est l'un des aspects les plus intéressants de cette trilogie, c'est quand même la langue, puisque Albert Simonin pratique cet argot bien particulier. Nous sommes dans le Paris des années 30.
Bon, petit gars de la chapelle.
Bon petit gars de la chapelle, d'ailleurs je crois qu'il a écrit un dictionnaire
d'argot aussi.
Absolument,
c'est le titre de son livre de souvenirs également.
Et donc on plonge dans ce roman, au début c'est un peu déconcertant, on comprend pas tout, hein. On comprend cinq mots sur une phrase
mais
de
dix. Mais il y a un lexique quand même.
On a l'impression de lire un texte dans une langue qu'on parlerait aux trois quarts en fait. Et donc finalement on se laisse porter et puis on devient un petit peu accro parce qu'il est très fort Albert Simonin, il a un très bon style, moi je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'il a d'un côté cet argot et puis d'autre part des phrases très intéressantes, il pratique l'anacolute de manière... Très drôle. Oui, il fait volontairement des fautes de syntaxe. C'est de l'argot lettré. Hein. Il pratique volontairement des fautes de syntaxe et ça crée un effet fort sur le lecteur. Et puis, il joue sur la ponctuation. Enfin, voilà, il a vraiment un style fluide et fort qui m'a porté pendant toute la lecture du texte. Voilà. Et donc, ce texte qui nous amène dans la criminalité du Paris des années 30 avec, d'un côté, les hommes, vous disiez, hein, messieurs les hommes triomphants, et puis de l'autre, les femmes qui sont les objets de ces messieurs, qui sont prostituées, battues, violentées. Tout au long du livre et qui parfois se venge avec des omelettes aux champignons tueuses.
Instinctivement, Johnny écarte son corps de celui de la fille, à la fois pris de traxir et furieux. Quel besoin avait-elle de lui parler de ce mec alors qu'il questionnait sur rien ? Vanité de faire savoir qu'il succédait à un caïd, qu'elle l'avait assisté jusqu'au bout, ce pauvre Pente, dénommé Nénès de Bordeaux. Silencieusement, le grand se met à se marrer. Nénès, c'est pas vrai. Ce doit être un char, ce blaze. Ça y est, le grand se détend. Par le chambrage, il vient d'endiguer la vape qui commençait à lui envahir les fibres. C'est un mécanisme de secours qu'il a dans le cassis. Percevoir un ridicule dans une situation angoissante, la lui désamorce aussi sec, fait virer le drame en rigolade. Nénès de Bordeaux. Ce gonze au nom incroyable. Il le voit, complètement branque, partir braquer son enquête. Pareil à un clown, faisant une entrée de piste à Medrano, un canon de 37 sous le bras. Puis alors que l'affaire se corse, il le transmute en vrai charlot, le dit Nénès, à l'instant où, contrarié, cette pomme envoie la fumée, tout un chargeur dans le baquet de l'employé rétif. Un extrait de la trilogie du Hotu d'Albert Simonin, monsieur Prolongeau.
Mais c'est effectivement assez remarquable par cette langue. Et Simonin est, avec évidemment Céline et en mineur San Antonio, un des rares auteurs qui fassent de l'argot sans en faire du folklore. Donc c'est une autre langue. C'est pas juste rajouter des gros mots. Et c'est un tic qui a malheureusement, en suivant son exemple, imprégné un peu un certain nombre d'écrivains qui ont supposé qu'il suffisait d'être grossier, voire vulgaire, pour égaler le talent des précédents. Donc la langue est assez formidable. Ce que j'aime beaucoup moi aussi dans ce livre, c'est que l'intrigue n'est pas d'une rigueur absolue et que c'est une succession de scènes de vie. Donc on plonge dans un milieu et c'est un livre qui est porté par des personnages beaucoup plus que par une mécanique policière. Et ça aussi, ça, comme ils vivent d'une vie assez étonnante, c'est assez formidable. Le seul bémol que j'aurais, moi, c'est par rapport à un certain folklore, d'abord à une misogynie quand même un peu marquée.
Ah bah, c'est pas moi qui ouais,
le
dis.
Le mot est faible.
Voilà. On peut dire que les gonzesses craignent dans ce livre.
Et les femmes sont traitées comme une marchandise qu'on achète, qu'on exploite et qu'on revend.
Qu'on bat comme plâtre.
Qu'on entretient à coup de torche. Et à coup je dirais d'ornements coûteux, puis quand la dame a fait son temps, on la revend
et on la change et on la remplace.
Non, là il y a vraiment.
Et ça, c'est vrai chez Simonin, c'est vrai chez Alphonse Boudard, qui est aussi un peu un de ses descendants, une espèce de complaisance face à la prostitution et à l'exploitation et à l'esclavage des femmes, qui moi m'a toujours un peu gêné dans ce folklore des années 30 où le macro sympa. On retrouve ça aussi, alors dans des livres beaucoup moins argotiques, beaucoup plus littéraires, mais qui sont encore très vivants. Livres de Carco, Jésus Lacaille et autres, il y a quand même considéré que les putes, ça fait partie de la vie. Et ce qui est marrant, c'est la manière dont la drogue, elle en revanche, est totalement diabolisée. On voit ça aussi dans Le Parrain, le film où ils sont tous là, s'étriper les uns les autres. Mais au moment où quelqu'un touche à la drogue, là, c'est horrible, on va pas faire ça. Ce folklore est un peu gênant et un peu encombrant parfois dans ce livre. Par ailleurs, qui est un vrai régal.
Ce qu'il faut quand même dire à nos auditrices et auditeurs, c'est que c'est un livre, une trilogie romanesque parue à La Série Noire. dont Simonin était un des parrains, j'allais dire, un des astres, en 1968, 1969 et 1971. Donc il ne s'agit pas d'une trilogie pigalleuse des années 50 qui serait tout de suite passée au cinéma, mais c'est au contraire peut-être le chant du cygne littéraire de Pigalle en littérature. Et ça, c'est assez étonnant. Et effectivement, l'argot n'est pas là à titre simplement, je dirais, d'un objet décoratif ou folklorique qu'on manipule et qui charrie une histoire, assez commune. Le livre ne valant que par son lexique, c'est également une espèce d'analyse existentielle de ce qu'est, je dirais, la vie du milieu, avec notamment avec ces dames dont on vient de parler, qui ont des moments de blues, de mélancolie. Élise Lépine, il prend vraiment ça en charge, Simonin. C'est, je dirais, les vertiges existentiels, les angoisses, le blues de tous ces gens qui vivent à 100 à l'heure et que quand ils s'arrêtent ou quand ils sentent que la fin est venue, sombrent dans une espèce d'abîme, d'angoisse, d'incertitude assez effrayante.
Oui, il y a plusieurs personnages effectivement qui sombrent comme ça dans une espèce de spleen incroyable qui traverse ces zones criminelles de la capitale et tout ça est renforcé, hein, Hubert en parlait à l'instant, par l'arrivée de la drogue sur le marché, puisque c'est un peu le sujet aussi du livre. C'est-à-dire que des Allemands, là, dans le roman, amènent la fameuse schnouf, c'est-à-dire de l'héroïne, dans Paris, qui commence à être trafiquée et puis qui commence à être volée, dérobée, revendue, etc. Donc il y a un business qui s'organise. Et puis il y a un vieux de la vieille, Pierrot, là, le fameux personnage qui est un vieux mac respecté et qui lui a une haute estime du milieu des voyous de cœur, qui dit voilà, ce sont des Allemands qui nous amènent la schnouf maintenant, qui vont nous pourrir, qui vont abîmer la race et souiller la patrie avec, ils n'ont pas réussi à nous tuer avec le gaz moutarde, ils vont nous tuer maintenant avec leur nouveau poison. Et c'est vrai qu'on voit que la drogue dans ce roman est un peu la boîte de Pandore par laquelle vont arriver tous les maux, c'est-à-dire que une fois que les gens touchent à la drogue, que les personnages touchent à la drogue, il y a notamment une prostituée qui se drogue et puis qui va sombrer, je pense que c'est peut-être à elle que vous pensez, et qui va devenir l'emblème justement de cette déchéance. Alors oui, il y a une hypocrisie effectivement criante, hein, dans tout ça, c'est-à-dire que cette pauvre femme, de toute façon, elle avait déjà été mise au pilori une fois parce qu'elle avait attrapé une maladie vénérienne, et c'est pour ça qu'elle se prend des tartes dans la figure et puis qu'elle est mise au rebut pendant au moins 3 semaines. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui dit, mais attendez, c'est toujours les femmes qui prennent et c'est jamais les michetons qui sont embêtés quand il y a des maladies qui traînent, alors que c'est eux qui les transmettent. Donc là, il y a quand même une voix pour les femmes qui s'élèvent dans le roman.
Mais enfin, c'est totalement désavoué par le livre.
Non, on peut pas dire. Moi, je suis d'accord sur cet aspect de la complaisance. Hein. Il écrit en 68, mais enfin, on peut pas dire qu'il va rejoindre la cause féministe.
Oui, c'est marrant. La date est quand même extraordinaire.
Et ça rappelle un peu, pour cette mentalité, dans les mêmes années, les pire film de la fin de Gabin, Le Pacha, l'espèce de polar laborieux, à demi facho et qui ont
monsieur
un peu trop marqué.
Oh, comme il y va, notre ami
Hubert.
Non, mais de toute façon, cette vision de la drogue, Hubert a raison de rappeler que c'est dans le parrain, parce que c'est dans le milieu, c'était tout simplement comme ça. Enfin, je veux dire, et la prostitution, je veux dire, on adore tous, touchez pas au Grisby, quel premier bouquin de Simonin et quel film de Becker juste après. Et je veux
53.
Dire, les filles sont toutes, le film c'est 54, et les filles sont toutes en main, c'est des prostituées, tout le monde trouve ça normal. Enfin, je veux dire, et par contre, la drogue et les dérèglements. Qu'elle amène risque d'être nocif pour le business et pour le métier. Alors que les filles, bon, ben, c'est entendu que les femmes dans ce métier, elles font commerce de leur corps. Il faut se mettre dans cette perspective historique. Évidemment, c'est très très choquant aujourd'hui, mais ça ne l'est pas à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est là où on voit comme les mentalités ont changé. Mais vous avez raison de le signaler, quand on découvre ces romans de la série noire aujourd'hui, ça peut faire choc corridor à ceux qui les lisent. Mais il y a une logique, quoi. Et je ne pense pas que Simonin soit vraiment seul sur le coup.
Non, mais c'est vrai que c'est un livre qu'il faut lire à la fois comme un roman prenant et puis en sorcelant par sa langue, mais aussi comme un document, c'est-à-dire que c'est une véritable plongée dans ce Paris criminel. Autant les beaux quartiers, hein, on est vraiment dans le 17e rutilant avec ses petites pépées bien habillées qui ont braqué leur voiture et puis leurs bijoux. Et en même temps, on est du côté de Clignancourt, La Chapelle, Montmartre, où vraiment on découvre ce milieu très serré qui fonctionne comme une famille et qui va exploser avec justement l'arrivée de la schnouf sur le marché. C'est vraiment un document.
Hubert. Il y a autre chose d'assez remarquable dans ce livre et qui est assez rare dans le polar, c'est qu'il y a un couple non homosexuel et masculin qui est assez fouillé. L'amitié qui unit donc ce fils de famille un peu dévoyé et le petit voyou de Clignancourt est un sentiment assez subtil, assez fin.
Ouais, et qui est répandu chez Simonin. Dans Touchez pas au Grisby, il y a déjà ça.
Oui, ouais, la paire.
Et Bob le flambeur, qui est d'après Le Sou, le film de Melville. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est très lié au milieu. Hein.
Et puis il fait un beau travail sur le ressentiment, puisqu'à un moment donné, ce fameux au-dessus de Johnny, il est dépassé par le petit Paul, hein, qui devient Polo, puis qui finalement va le doubler. Et il dit, voilà, on ne peut pas retirer sa misère à quelqu'un sans forcément la prendre sur soi. Donc ça, c'est aussi un sentiment de nostalgie et de trahison qui est quand même assez présent dans le livre. Hein, et la rupture entre les deux hommes est un peu crève-cœur à la fin.
Albert Simonin, la trilogie du au-dessus à découvrir ou à redécouvrir à la Manufacture de Livres.
Culture, mauvais genre, François Angélier.
Second livre choisi ce soir dans Mauvais genre sur France Culture, dans ce cercle noir, Charles Beaumont, un intrus. Alors ça, c'est un livre qu'il faut lire sans plus tarder quand on est un amateur de mauvais genre. Pourquoi ? Parce que d'abord, Charles Beaumont, qui mourra très jeune, à 38 ans, est connu et de manière extrêmement, depuis très longtemps, comme un des grands scénaristes de la série La Quatrième Dimension, comme un important auteur de nouvelles, de science-fiction et de fantastique, comme quelqu'un qui a publié dans Playboy, donc dans l'univers des genres, comme scénariste de Roger Corman, notamment pour tout ce qui est film fantastique. Dans cet univers-là, Charles Beaumont, celui qui est le nôtre, compte énormément. Et là, on découvre une autre facette du personnage avec ce roman, Un intrus, Hubert Prolongeau, qui est réédité par Belfond dans sa collection Vintage Noir. C'est un roman absolument étonnant sur, je dirais, l'art et la manière de déstabiliser et de mettre le feu aux poudres dans une petite ville du sud des États-Unis au moment des premières mesures déségrégationnistes du gouvernement américain. C'est un grand livre sur le racisme.
C'est sorti en 1959, donc c'est l'un des deux romans de Charles Beaumont. C'est sorti sous le titre Les Intrus, là c'est redevenu Un Intrus.
Pourquoi Les Intrus, il n'y en a qu'un,
tout à fait, donc cette correction est assez logique. Et c'est un film qui joue sur plusieurs niveaux, donc il y a d'abord...
Livre.
Merci Philippe. qui joue sur plusieurs niveaux. D'abord il y a ce côté... dénonciation du racisme qui est datée, donc l'époque où on ouvre les écoles. En 56, la Cour suprême américaine décide que les enfants noirs pourront aller dans les écoles fréquentées par les blancs, ce qui passe plus ou moins bien selon les régions, et dans le sud des États-Unis en particulier ça passe très mal. C'est un livre qui est intéressant par tout ce qui affleure. On y voit à travers le personnage donc d'Adam Kramer, le héros, qui est un personnage assez complexe, des tas de choses qui nourrissent le racisme autre que le rejet de l'autre. Il y a des problèmes de désir non avoué pour les filles noires, il y a des problèmes d'impuissance qui traînent. On voit que c'est complexe et que le racisme n'est pas un sentiment aussi noir et blanc qu'on pourrait le croire. Et puis, c'est surtout un livre qui dénonce le populisme. Le héros Adam Kramer donc est un militant raciste qui débarque dans une petite ville des États-Unis, Caxton, dans laquelle les enfants noirs vont, à la rentrée scolaire qui suit, intégrer l'école normale, donc être mélangés aux élèves blancs. Et on le voit tisser sa toile à base de ragots, de coups de fil, de déclarations politiques,
de rendez-vous,
de talents de tribun, Et il arrive comme ça à faire sortir chez des gens qui sont ni pour ni contre le pire. Et je voudrais citer une anecdote récente pour montrer à quel point ce livre est quand même extrêmement actuel. Donc je sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière ou celle d'avant, le maire de Vissous dans l'Essonne, Richard Trinquier, a pris, il a un rapport à l'alcool assez marqué, donc il était assez saoul, et il a pris un katana, un sabre japonais, une arme de poing, un gilet pare-balles, et est allé s'en prendre à des gens du voyage qui avaient commis l'outrecuidance de s'installer sur un terrain qui, je crois, leur était destiné.
Nouvelle donc parue dans la presse.
Tout à fait, oui, complètement. Ce qui, il sera jugé le 14 juin, je crois, pour cet acte. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai une amie qui est journaliste au Parisien, qui donc c'était un dimanche, était là ce jour-là, et a été chargée de faire le papier, est allée en ville, et n'a pas trouvé une personne qui désavoue ce geste. Donc, qui va être sanctionné par la justice, mais qui se trouve soutenu par... Et j'imaginais, en lisant le livre, Adam Kramer débarquant là et amenant la population de Vissous à foutre le feu à ce camp assez rapidement. Donc, il y a cette analyse qui est quand même très, 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 très actuelle. Donc, Adam Kramer est le personnage qui souffle sur les braises, qui tend le piège. Et il y a dans le livre un côté un peu implacable dans cette montée du racisme. C'est pas un livre qui fait un sermon, c'est pas un livre qui vous dit le racisme c'est pas bien, même s'il le dit évidemment, mais qui démonte un mécanisme. Et ça, c'est très 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 fort. Alors il y a quelque chose d'étonnant aussi, il y a à la fin une espèce de happy end totalement invraisemblable, où il se trouve qu'une jeune fille est illuminée par la grâce.
Et ça arrive.
Ça arrive, effectivement. Votre vision optimiste du monde me fait chaud au cœur, François.
La confiance en la grâce.
Oui. Ça. Et elle démonte tout le jeu. Et alors les gens se disent,
c'est
vraiment.
C'est pas tout à fait ça, quand même.
Ils disent, ça c'est vrai, c'était pas bien. Et ils renvoient le méchant. Et moi, j'ai trouvé que ce happy end était tellement plaqué, tellement ne correspondant pas à l'ensemble du livre, que je me suis demandé s'il n'était pas fait exprès, et si en fait l'idée n'était pas de dire, voilà, je vais bien finir, mais dans la vie, ce que je raconte est tellement invraisemblable que ça ne peut pas finir bien comme ça.
Fausto Fazulo.
Oui, juste pour raccrocher les wagons au parcours de scénariste de Charles Beaumont, il y a quelque chose qui m'a particulièrement impressionné dans le livre, c'est les scènes de cauchemar en fait qui viennent percuter les nuits du personnage donc d'Adam
Kramer. Parce que
Kramer,
oui.
Voilà, c'est parce qu'on se doute, c'est un personnage qui est effectivement très sûr de lui en façade, mais monsieur dort pas très bien. Donc il est effectivement bousculé par des cauchemars, et la façon dont Charles Beaumont est décrit en fait ces cauchemars, on est vraiment dans du pur fantastique, quelque chose qu'on pourrait raccrocher justement au travail qu'il a pu faire chez Roger Corman. Mais ce que j'ai vraiment particulièrement noté aussi, c'est la narration impressionniste, c'est-à-dire que en fait il travaille la caractérisation de ses personnages par touches, et c'est vrai que c'est pas un roman de suspense à proprement parler, mais finalement il y en a un dont dans la façon en fait dont les trajectoires psychologiques nous sont présentées, c'est-à-dire que des personnages qui peuvent paraître un petit peu lourdeaux, psychologiquement pataux, voire un peu nuls au début, commencent à prendre de l'épaisseur et commencent en fait à épouser des trajectoires morales qu'on ignorait en fait au début. Je pense par exemple au personnage de Sam Griffin, qui est quelqu'un qui pourrait par exemple apparaître comme un quatrième ou un cinquième rôle, et qui en définitive aura une place beaucoup plus importante. Et en cela, il y a un vrai suspense dans le roman.
Adam Kramer est assis au fond du café de Johan. Il éprouve de la reconnaissance pour cette chaleur et essaie de manger le sandwich au jambon détrempé qu'il a commandé. Il connaît les effets de la chaleur sur les émotions des gens. L'été possède un pouvoir magique qui met les nerfs à fleur de peau, fait bouillir le sang et dessèche les cerveaux. Peut-être est-ce logiquement inexplicable, mais ce n'en est pas moins vrai. Les crimes brutaux se commettent bien plus fréquemment sous les climats chauds que dans les pays froids. Il se produit plus d'assassinats, de vols, de rapts, plus d'émeutes en été qu'aux autres périodes. C'est la saison des méfaits, des mouvements lents et des explosions soudaines. La saison de la violence. Adam regarde la rue, puis le thermomètre accroché derrière la caisse. Il constate que la barre rouge parvient presque au sommet. Il se demande ce qu'aurait pu faire le cavalier masqué par 20 en dessous de zéro. Comment se débrouillerait Zorro dans l'Alaska ? Il décolle sa chemise imbibée de sueur. Même le temps vient à son aide. Il parvient à avaler la dernière bouchée de son sandwich, dépose 25 cents auprès de son assiette et sort. extrait de Charles Beaumont en intrus chez Belfond Collection Vintage Noir. Philippe Rouillet.
Oui, moi je suis assez d'accord sur cette idée d'avancer l'intrigue de manière impressionniste, comme disait Fausto. Et du coup, moi j'ai pas jugé la fin irréaliste, parce que ce personnage de Sam Griffin dont parle Fausto est justement derrière à la manœuvre. Et il est présenté dans le livre d'abord comme un type un peu pâteau et petit à petit comme une sorte d'alter ego. C'est-à-dire que c'est un VRP. Lui aussi, c'est un camelot, il se présente comme ça. Et en fait, la jeune fille qui change d'avis sur son témoignage, elle le fait parce qu'elle est passée entre les mains de ce camelot qui est en fait aussi fort pour retourner les gens que le Adam Kramer dans un autre genre. Alors, moi, évidemment, je connais le film de Corman.
On va en parler dans
et je l'ai revu. À cette occasion, je signale qu'on peut toujours le trouver chez Backfilm.
Backfilm, à ne pas rater.
Hein. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est Charles Beaumont lui-même qui a écrit le scénario. Donc il a adapté son propre livre. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les choix qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est très fidèle à la chronologie, mais il a enlevé alors, ce qu'on pourrait appeler le gras par rapport à une série B qui est celle de Corman, qui est en noir et blanc, qui est un film un peu coup de poing, qui fait à peine une heure et demie. Mais qui donne la densité du roman. Ce sont les rêves dont tu parlais, Fausto, mais c'est aussi un professeur qu'a eu cet Adam Kramer et qui flirte avec le fascisme. On pense à la figure du professeur dans La Corde, hein, qui fonctionnait de la même manière. Mais toute l'histoire sur l'impuissance, l'attirance pour les filles noires, c'est-à-dire que on voit bien comment pour le film il n'y avait pas moyen de donner toute cette ampleur romanesque, et donc il y a une trajectoire. C'est vraiment ce type qui déboule, c'est un truc qui déboule en ville et qui va remettre les gens à feu, à sang, et voilà. Mais c'est très intéressant de voir les deux traitements, et on peut aimer les deux. On peut aimer les deux, et je trouve que c'est assez fort d'avoir su se désépaissir comme ça pour aboutir à autre chose.
Hubert Prolongeau. Oui, il est passé d'un média à l'autre. C'est vrai que souvent les adaptations pêchent, et là il a su garder du livre exactement ce qu'il fallait pour servir un autre projet et coller de certaine ampleur à ce côté beaucoup plus désossé qui est celui du film de Corman.
Your mayor and the governor could have stopped it, but they didn't have the guts. All right. Now, you may think the problem is simply whether we're going to allow 10 Negroes to go to our schools. That's only a small problem.
Voilà un extrait de The Intruder, le film de Roger Corman, tiré donc d'un 62 d'un intrus de Charles Beaumont, Fausto Fazulo.
Bah, c'est le film préféré, en tout cas, de Roger Corman. C'est un film qui tient
qui
vraiment...
Qui préface d'ailleurs à la réédition chez Belfond.
Absolument, et c'est un film qui a totalement floppé en salle quand il est sorti. Donc c'est à la fois un film qui lui est très très important, et en même temps c'est un échec, et il n'en a pas eu tant que ça, des échecs Roger Corman. Et moi j'ai quelques réserves concernant William Shatner, pas concernant son jeu, mais plus concernant son physique. D'une certaine façon, je visualisais un Adam Kramer, on va dire, un petit peu plus frêle, moins épais, en fait, que William Shatner.
Philippe Rouillet.
Oui, mais moi, enfin, évidemment, comme j'ai vu le film en premier, j'avais pas le personnage du roman en tête, mais au contraire, dans le film, je trouve que Shatner donne un côté rassurant au personnage par cette épaisseur, et comment il peut embobiner la ville, parce qu'il faut pas que c'est quand même une ville du sud où les mecs ont un peu l'air, on va pas
c'est
nous la raconter.
C'est ce que je citais au début dans l'exergue, une ville grise, voilà. Mais grise comme la poudre à canon.
Et donc, il faut quand même une espèce de figure rassurante. Et il faut pas que faut que le type ait l'air incarné et que on ait envie de manger avec lui, de boire une bière. Faut pas que ce soit un type trop.
Qu'il soit proche des gens, et ça Shatner le rend bien, avec un espèce de charisme et en même temps une fragilité, puisqu'il s'écroule très très vite à la fin quand il est rejeté,
c'est aussi un roman sur l'artificialité de tous ces soulèvements qui sont d'une certaine façon produits et organisés de manière consciente et très méthodique, parce qu'on voit que déjà le professeur d'Adam Kramer, qui est une sorte d'intellectuel crypto-fasciste,
à la fin, quand les deux hommes se recroisent, je lui dis non, mais ce que je disais, c'était du pur discours. Donc déjà, premier niveau, c'est du pur discours. Et puis, l'intérêt de Sam Griffin, ce gros type balourd, d'ailleurs, dont Kramer séduit la femme, qui est une ancienne prostituée, enfin, on va pas en dire.
Légèrement nymphomane.
En dire trop. Donc oui, on a le même contexte que dans le haut-tu, à ce niveau-là. Justement, est un camelot, c'est un vendeur, c'est un type qui vend n'importe quoi à n'importe qui, avec beaucoup de talent. Et il a bien vu que Kramer n'était pas un homme de foi, mais plutôt un rhéteur, un sophiste. Et il le démonte en tant que sophiste. Et la scène finale, où il lui dit, mais en définitive, toi et moi, on fait le même boulot, moi je vends des porte-mines, toi tu vends du racisme, mais en définitive, c'est pareil, est quand même assez étonnante sur cette idée que, bon, bah, il suffit de piger la rhétorique raciste pour... Je veux dire, peut-être pas pour en aller en avoir raison aussi vite, mais au moins pour arriver à la délimiter.
Ce qui est bien dans le livre, et qui est, évidemment ça va beaucoup plus vite dans le film, c'est de voir la transformation des gens de la ville et comment ce type qui vient prêcher la haine va les amener à se prononcer eux-mêmes, c'est-à-dire que tant que c'était la loi, ils pouvaient dire qu'ils étaient, enfin, pas très pour, mais que voilà, c'était la loi et ils l'appliquaient. Là, tout d'un coup, ils doivent trancher. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre ? Et ça, le livre parle très très bien de cette transformation-là. C'est l'éditeur du journal, le père de la fille qui témoigne, et puis le principal de l'école.
Parce que transformation qui n'est pas que négative. Il y a aussi des gens qui, confrontés à ça, font le bon choix de lutter contre, de quel que soit le prépayé. Donc, c'est pas non plus une œuvre misanthrope, c'est une œuvre lucide, mais tout espoir n'y est pas tué, même si on accepte cette happy end sur laquelle Philippe et moi divergeons.
Charles Beaumont en intruche chez Belfond dans la collection Vintage Noir. Quelques mots à Lise Lépine sur le dernier numéro de la revue Sans Froid.
La revue Sans Froid.
On en manque chez Charles Beaumont, mais vous allez nous en redonner.
On va en retrouver dans cette revue, donc, qui est une revue consacrée aux faits divers, justice, police, et puis qui a un cahier polar auquel je contribue. Alors, cette intrimestriel en librairie, on peut retrouver dans le cahier polar un grand entretien que j'ai mené avec John Esbo, le fameux vendeur de best-sellers norvégien, pas piqué des hannetons, hein, puisque c'est toujours assez corsé, ses romans, donc qui m'a confié ses secrets d'écriture et de fabrication de romans. Et puis, surtout, moi j'ai beaucoup aimé faire le portrait de Sarah Lovestam, qui est à la Griffe Noire chez Robert Laffont, et qui est une auteure suédoise qui n'hésite pas à inventer le premier enquêteur mondial qui soit à la fois transgenre et sans papier dans la Suède contemporaine. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très novateur. Et elle, c'est une personnalité très intéressante aussi. J'ai fait son portrait sur 8 pages avec des photos d'Alexis Fogel, donc c'est vraiment à voir.
C'est dans la revue Sans Froid, troisième et dernier sujet ce soir dans Mauvais Genre. Mark Dixon, détective d'Otto Preminger.
You're a relentless manhunter, Mark Dixon. The detective who wades in with his fists where others fear to tread.
You don't hate hoodlums. You like to beat them up. You get fun out of it. You like to read about yourself in the newspapers as the tough cop who isn't afraid to wade in anywhere. Your job is to detect criminals, not punish them.
But you're involved in a sinister affair, Dixon. There's danger in every footstep, where the sidewalk ends.
Are you trying to frame me? Nobody's framing you. You killed Morrison, and you killed Payne. And I'm going to get a statement out of you. Outside your lugs, he's going to talk. You'd better go.
Mark Dixon, détective d'Otto Preminger, superbe édition chez Wildside. Philippe Rouillet, Blu-ray et DVD.
Et plus livret, écrit par Frédéric Albert-Lévy.
Tout ce qu'on attend de Wildside et qu'on a toujours.
Et deux gros bonus vidéo. Moyennement rapport avec le film, faut quand même le dire. Un doc sur Gene Turney. Qui fait l'affaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'y parle pas du Mark Dixon détective. Et puis il y a un long entretien avec Bogdanovich sur Preminger,
qui est très intéressant.
Voilà, il va un peu vite là encore sur Mark Dixon, mais c'est quand même très intéressant. Et c'est vrai que ça éclaire ce film qui est très intéressant parce que je veux dire Preminger, Gene Turney, Dana Andrews, c'est déjà Laura en 44. 1944 et donc il y a 44 et là 1950, c'est une espèce de pont entre les deux. Bah, Preminger va encore tourner avec Gene Turner dans Whirlpool, hein, le mystérieux docteur Corvo. Il fait aussi Fallen Angel. Donc c'est le moment du film noir. C'est-à-dire que on peut être d'accord pour dire que Preminger se découvre auteur de films noirs avec Laura, hein, et le côté vénéneux de Gene Turner. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment là, elle est complètement différente. Elle est fatale malgré elle. Hein. C'est plus du tout le personnage de Laura. Le héros, c'est Mark Dixon, qui est vraiment... Alors, c'est pas du tout un détective. Andrews. C'est pas du tout un détective, comme le dit au sens détective privé. C'est un homme de police. Mais vous savez, dans la police américaine, ce qu'on appelle détective, en fait, c'est un lieutenant. Hein. Donc, c'est un lieutenant de police qui a des méthodes un peu trop brutales. Hein. C'est un peu le Dirty Harry avant l'heure. Et qui, au début du film, se fait rétrograder. Et qui, pas de bol pour lui au moment d'interroger un témoin, lui fout un nion. Enfin, il est en légitime défense et le type meurt parce qu'il avait une broche dans le crâne, ce que ne savait pas le Mark Dixon. Alors, au lieu de dire, bon, bah, j'ai un petit peu loupé mon coup,
mais on pourrait appeler... Mais il ne pouvait pas se le permettre puisqu'il était
mais
déjà...
Il ne peut pas, les gars. Donc, du coup, il va se conduire comme un criminel, à savoir comme un criminel qui aurait fait un crime, faire disparaître le corps, etc. Et toute l'histoire va être là-dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, avec ce même film, un traitement hitchcockien. C'est-à-dire le faux coupable, etc. Et là, on a un traitement prémingérien. C'est-à-dire que c'est tout à fait autre chose. On dépasse le côté faux coupable et comment il va s'en sortir pour avoir une question beaucoup plus morale. Par rapport à la cité, vraiment la photo de Joseph Lachelle est formidable. Et surtout, il y a cette idée de la culpabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un faux coupable, c'est au contraire quelqu'un qui est une sorte de coupable désigné et on découvre qu'il a un père qui a été lui-même non pas un policier mais un truand et que c'est ce père en lui qu'il veut éteindre. Et face à lui, il y a le père de Gene Turner dont il est amoureux qui devient le suspect numéro un, donc qui lui est un père admirable, aimant, intelligent, etc. Et alors va-t-il sauver ce père-là pour tuer le mauvais père en lui ? Voilà, il y a toute cette problématique qui est admirablement traitée par Preminger. C'est Ben Esch qui a fait le scénario et l'adaptation.
Oui, c'est vrai que Philippe a complètement raison sur l'aspect pré-Dirty Harry. C'est un peu un pré-Dirty Harry psychanalytique. C'est-à-dire que on a ce personnage qui a effectivement de très très gros problèmes, donc contrairement à Clint Eastwood dans Dirty Harry. Et ce qui est marrant, c'est la façon dont dans la mise en scène de Otto Preminger, permettez-moi de le prononcer à l'autrichienne.
Ah, ça y est.
Il ne sera pas là pour nous en vouloir.
Oui, parce qu'il voulait préférer Preminger.
Voilà. Vous préminger. Tout est possible à mauvais.
Appelons-le Otto.
Otto.
Ce qui est très 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 intéressant, c'est de voir comment sa mise en scène, qui est très mobile en fait, épouse la fuite en avant du personnage. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui ne reste strictement jamais à sa place. C'est un personnage qui a un vrai problème aussi avec le temps passé, puisque effectivement il veut régler à rebours le compte de son père. Dès le début du film, c'est quand même un personnage qui arrive en retard à un moment clé en fait de son travail, c'est-à-dire à la nomination de son supérieur hiérarchique. Il arrive en retard. Ensuite, il essaye de s'enfuir, de cacher le corps et de travestir la vérité en ce qui concerne les heures de départ et d'arrivée, puisque l'intrigue est assez complexe avec ses allers-retours dans l'appartement de la personne qui a été tuée. Donc on voit que c'est un personnage qui en fait ne tient pas en place, et la mise en scène justement d'Otto Preminger est complètement au diapason. Elle épouse tous les recoins du décor, parce qu'il y a beaucoup de jeux aussi sur les surcadrages et la façon dont la caméra est placée dans certains recoins, puisque c'est un personnage qui court et qui se dissimule. Et puis surtout, moi, il y a quelque chose que je trouve très drôle, c'est la façon dont il se joue de la censure avec le personnage de Tommy Scalise, qui est donc le méchant mafieux qui est incarné par Gary Merrill et qui est un personnage de drogué, mais qui n'est pas, on le voit pas en fait directement prendre de la drogue. Il sniffe une espèce de stick qui pourrait être aussi bien de la cocaïne que du popper.
Exactement.
Puisque c'est aussi une sorte de d'homosexuel étrange entouré.
Et là encore, c'était interdit.
Complètement.
Parce qu'il y avait un autre personnage qui était homosexuel que le bureau
qui a été biffé.
Voilà, quel bureau de la censure avait dit ah non, ça passe pas.
Et ce personnage-là, je pense que son homosexualité explose littéralement dans une scène qui est hallucinante où on le voit se faire masser par une espèce d'homme de main giton. Donc on peut pas le voir torse nu, donc il est massé sous une serviette.
Il
s'est massé
les chevilles. Voilà. Et il a une affaire de bain turc. Hein. Comprenez qui ça. Pourra.
La cheville est métaphorique.
Elle est ouvrière, la cheville.
Donc c'est très curieux. On a ces hommes de main mafieux en t-shirt moulant. On a une scène de combat qui aurait pu très bien se passer dans une sorte de bain par ailleurs. Et c'est très marrant de voir comment Otto Preminger s'amuse avec toutes les choses qu'il ne peut pas montrer et comment il nous les montre, mais d'une façon détournée.
Élise Lépine, est-ce que vous avez été sensible au bain turc ?
Ah oui, et puis surtout, moi, ce qui m'a plu dans ce polar, c'est qu'on est vraiment dans une tradition très américaine du polar, c'est-à-dire qu'il y a cette... En France ou en Europe, on fait des choses très cartésiennes, alors qu'aux États-Unis, il y a ce côté destin, le doigt du hasard qui vous frappe. Là, c'est ce qui se passe pour ce personnage, ça m'a fait penser à Des Tours, dont on parlait il n'y a pas si longtemps, de Goldsmith, le roman, et puis d'Edgar Ulmer au cinéma, qui met aussi en scène, justement, ce personnage frappé par le destin,
poisse,
qui, malgré lui, la poisse, et puis quelque chose de presque plus fort que lui, presque divin, qui lui tombe dessus et puis qui le met face à ses responsabilités d'homme et d'humain. Donc moi, je trouve ça très bien dans le polar américain. J'aime beaucoup ça.
Philippe Rouillet, d'ailleurs, le doigt du destin, c'est surtout la hantise du père, parce que il est tapis à l'arrière-plan.
Oui, ben c'est complètement ça, c'est ce qu'on a dit, c'est le père. Ce qui est intéressant, il faut quand même rappeler le titre original, hein, parce que Mark Dixon, détective, c'est vraiment pauvre, même si Frédéric Albert Lévy essaye de faire un jeu de mots sur Dixon, le Dick, qui est machin.
Dick, c'est quoi ça, Dick ?
Ben, le fils de Dick.
Le fils de Dick, oula.
En même temps, Dick, c'est aussi
Dick
le...
Dick a une autre signification.
Voilà, c'est aussi j'attendais mieux.
On peut retomber sur la thématique qu'on a évoquée juste avant.
Bref.
En tout cas, c'est très intéressant
parce que le vrai titre, c'est en français, c'est quand le trottoir s'arrête.
Voilà, c'est ça.
Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est constamment un film sur la limite, sur les bornes, et où s'arrête le bien, où commence le mal, et ainsi de suite.
Et le générique est magnifique parce qu'on y voit comme ça les jambes d'un homme, je crois, qui avancent sur le trottoir et qui disparaissent dans une ruelle. Donc toute la thématique du film est déjà là.
Parce que là où s'arrête le trottoir, c'est le caniveau.
Ben voilà, c'est ça. Donc c'est toujours à cette espèce de frange où on doit, si on veut marcher, il faut marcher sur le trottoir, sinon on est dans le caniveau ou sur Élise Lépine.
Moi, je voudrais dire un mot aussi du personnage féminin, du personnage de Morgane quand même, qui est exceptionnel, voilà, qui est très bien joué par, évidemment, par Jean Dernay, et puis qui est formidable, puisqu'on sort complètement de la dualité dans le polar américain entre la femme, d'un côté la femme fatale, vénéneuse, qui finalement est un peu emmurée dans ce rôle, et de l'autre la femme naïve, qui sera punie à un moment donné pour sa naïveté. Elle est à la fois lumineuse, elle est séduisante, mais elle n'est pas fatale, et elle est intelligente, mais elle n'est pas... Elle a un rôle très particulier, très lumineux.
C'est une femme qui, justement, n'est pas une femme fatale, qui est une femme qui est une espèce de chemin vers la rédemption, et c'est le rôle qu'incarnera aussi Kim Novak dans L'homme au bras d'or, qui est une autre un peu plus tardivement.
Bah oui,
c'est la femme de Preminger.
Mais sans mièvrerie, on sort vraiment d'un
chemin. Jamais chez Preminger, Élise. Jamais.
Marc Dixon, détective d'auto, Preminger ou Préminger, comme on veut, c'est chez White Sign, et on retrouve les garçons de bain et les bains turcs qu'avec Christophe Beer.
La photographie, les peintres et illustrateurs se sont rarement intéressés au putain mâle. Sujet d'études académiques, le corps masculin était glorifié, mais sa réalité prostitutionnelle réprimée et la représentation de celle-ci reléguée sous le manteau. La riche iconographie réunie par Nicole Canet dans l'exposition et le livre « Garçons de joie » sur l'imaginaire de la prostitution masculine de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à 1960 est un tour de force dans lequel la mythologie du matelot à la peau iodée, le fétichisme de l'uniforme, le goût des travestis, les chambres miteuses, les hammams et les vespasiennes sont les thèmes récurrents. Deux artistes des années 1940 se distinguent, sur lesquels la galeriste lève le voile de l'anonymat. L'un est un ami de Roger Perfitte et Jean Genet, dont il illustre les poèmes de 20 lithographies pour un livre que j'ai lu. Son œuvre clandestine à la mine de plomb peut s'identifier à la petite toile d'araignée que comporte chaque dessin, dans un coin de meuble, au plafond d'une chambre garnie, contre un miroir mural. Elle est la marque du peintre Roland Caillot, qu'un héritage avait mis à l'abri. Comédien, il avait joué dans quelques films de Rex Ingram, Jean Renoir et Georges Lacombe et fréquentait Jean Cocteau. Son crayon dessine un univers d'étreintes viriles et marginales dans lequel des marins en transit, des voyous à casquettes et des légionnaires s'étreignent à deux ou trois. Le pantalon débraillé s'ouvre sur des sexes gorgés de désir, les muscles bandent sous les débardeurs grâce aux hachures de caillots. Ces beaux garçons invitent à l'amour, paupières ténébreuses de convoitise, mains brûlantes agrippant les sexes, caressant les torses. Les regards se perdent dans l'abandon, brillent aussi de défis plantés dans les nôtres. Caillot aime cette provocation interlope, sans parole. On croit entendre leur allaitement, les imperceptibles gémissements des rencontres furtives. Contemporain de Caillot, un certain Ernst Hildebrand, élève de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, fantasme sur les sexes démesurés et les corps graciles des gigolos, dans son atelier, la nuit, à l'insu de sa femme. Il ne cherche pas la perfection, mais ses esquisses rapides racontent sa fiévreuse convoitise. Ses éphèbes se laissent palper par des hommes plus âgés, s'offrent dans les tripots et sous les portes cochères. Leur corps, amaigri par la faim, se prête à la féminisation des bas et des corsets. Un tatouage réclame le fouet. Il s'adonne docile à une prostitution qui ne craint aucun vice.
Merci Christophe Beer pour ce final en beauté. Je rappelle les sujets traités ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Albert Simonin, la trilogie du Hotus est à la manufacture de livres. Charles Beaumont, Un intrus, préface de Roger Corman, c'est aux éditions Bellefond dans la collection Vintage Noir. Et puis magnifique édition collecteur de Mark Dixon, détective d'Otto Preminger, c'est aux éditions Wildside. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Eric Boisset, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Philippe Rouillet, Fausto Fazello, Hubert Prolongeau, Christophe Beer et François Joliet vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec François Rivière. Il y sera question d'Hitchcock, de Rudyard Kipling, de Maurice Level. Et d'ici là, bonne nuit à tous.